j'ai demandé au Seigneur de me donner sa parole pour terminer cette fin de semaine. Et c'est imposé à mon esprit, se trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, nous l'avons déjà cité, dans Malachie, et je lis depuis le milieu du verset 10e. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Et vous pouvez le croire. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Quand le Seigneur règnera, il en fera ainsi. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Je vous l'ai souligné ce matin un peu fort. Et vous dites, mais qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. On regarde aux autres, on ne regarde au Seigneur. Alors, verset 16, et prenez cela pour vous, comme je prends pour moi. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Vous avez fait une expérience dans ces journées. Vous avez été quelques-uns des petits groupes. Vous avez pu vous parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Est-ce que vous étiez conscient que vous aviez un auditeur parmi vous, dans chaque chambre, dans chaque groupe? Est-ce que moi je suis conscient quand je prêche que j'ai un auditeur, que c'est le Père, et qui m'entend parler de son Fils? Quelle responsabilité! Un livre de souvenirs fut écrit où? Devant lui. Donc où? Dans le ciel. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, au que nous puissions être sensibles à cette parole. Dieu est en train de préparer un grand jour. C'est lui-même qui le prépare. Et puis qu'est-ce qu'il vous dit? À vous qui êtes peut-être aujourd'hui encore dans la souffrance en pensant aux autres, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est la parole du Seigneur. Et maintenant, dans le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 18e, des versets que vous connaissez bien, et que j'espère, dans le trouble actuel où se trouve souvent les églises, nous apportera une bénédiction. Verset 19e du chapitre 18e de Matthieu. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi? Ça va loin. Une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous croyons? Et le verset 20 qui manifeste ce que nous sommes en ce moment, car là où deux ou trois, voyez-vous, c'est pas être 10 000 qui compte, c'est être deux ou trois déjà mis d'accord. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, pas au nom de Gaston Racine, hein, mais en mon nom, je suis rassemblé avec vous. Et qui est au milieu de nous? Jésus. Je suis là. Au milieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voyez-vous, dans ces quelques versets, je souligne simplement que nous avons une merveilleuse promesse qui est faite par quelqu'un qui ne saurait mentir, le Seigneur Jésus, qui nous dit que si nous étions vraiment d'accord, même si nous n'étions que deux, et que nous sommes d'accord pour demander à Dieu une chose quelconque, et qu'est-ce qu'on peut lui demander? Dans ces choses quelconques, il y a tout. Elle nous sera accordée. Priez ensemble. Priez à deux. Être un cœur et une âme. Rechercher son frère. Rechercher sa sœur. Et puis, demander ensemble, dans un plein accord, que Dieu nous réponde sur un point où nous sommes peut-être en difficulté en croyant qu'il répondra. Après cette promesse que vous trouvez dans le verset 20, vous trouvez maintenant le lieu où, là, car là. Et quel est le lieu où nous pouvons nous rassembler? Le lieu où s'est rassemblé Jésus quand il a institué la Sainte Cène, c'était pas sa maison, c'était un lieu providentiel, comme nous l'avons souvent souligné, là. Nous sommes ici au manoir d'Youville, c'est un lieu providentiel, dont nous avons pu jouir pendant 20 années, et maintenant nous y sommes encore. Là, c'est le lieu où deux ou trois, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre du témoignage. Deux ou trois suffisent pour Dieu pour qu'il dise il y a là un témoignage. Dans ce monde, il y a deux ou trois qui se rassemblent. C'est un témoignage. Sont assemblés en mon nom. Sont assemblés. C'est une convocation, c'est une réunion, où vous êtes assemblés, sortis du monde, mis à l'écart, et maintenant nous sommes ensemble, parce que nous aimons les uns les autres ayant été aimés par celui qui est le premier amour, notre Dieu. Et en quel nom sommes-nous rassemblés? En mon nom, quelle est l'autorité qui nous rassemble? Quelle est l'autorité que nous voulons subir ensemble? l'autorité d'un homme, d'un prédicateur, si dévoué soit-il. Non. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Et sur cela, nous devons insister. Aujourd'hui, on nous parle dans beaucoup d'églises d'autorité, qu'il faut se soumettre à l'autorité. L'autorité que nous reconnaissons dans notre vie. Et lorsque nous sommes rassemblés, c'est l'autorité de qui? Du Seigneur. Retrouvez-vous ces vérités et vous ferez des expériences merveilleuses. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Et si vous êtes réunis en son nom, c'est lui qui donnera tous les dons pour vous édifier. Pourquoi? Parce qu'il y a un sixième point, c'est sa présence. Je suis là. Je suis là. Puissions-nous, cet après-midi, éprouver tellement sa présence, comme j'espère que vous l'avez éprouvé dans vos champs, et maintenant que nous sommes rassemblés en son nom, et vous dites, je suis là. Je suis là. Il n'est pas au fond du ciel, il est là. Selon sa promesse. Sa présence. Et qu'est-elle, cette présence? C'est la présence du bon berger qui vous dit, qui prendra soin de vous, qui vous conduira, qui vous mènera vers les eaux paisibles, qui restaurera votre âme. Et que même si vous deviez passer par la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec vous. Vous n'avez plus peur des ennemis. Il est là. C'est sa présence. Au milieu d'eux, quel est le centre de notre adoration? C'est lui. Donc, comme notre frère Paul nous l'a souligné, ce matin, c'est toujours lui qui revient, c'est toujours lui. Et quand ça ne va pas, c'est que nous avons oublié que tout était en lui. Et que nous avons tout pleinement en Jésus. J'aime tellement ce texte des Colossiens, il est dit que toute la plénitude de la divinité s'est plus à habiter en qui? En Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que nous pouvons distinguer en trois personnes, mais que nous ne séparons jamais. On n'isole pas le Père, on n'isole pas le Saint-Esprit, on n'isole pas le Fils. Toute la plénitude de la divinité n'est plus à habiter en Jésus. Voilà le Jésus qui est au milieu de nous et que nous dont nous pouvons éprouver la présence. Et celui qui est au milieu de nous a exprimé un désir. Dans la nuit où il fut livré, il a institué ce repas du Seigneur, la fraction du pain. Et il a dit à ses disciples, en instituant ces signes, le pain et le vin, qui étaient le pain et le vin du repas pascal, qui étaient donc sur la table, qui n'était pas quelque chose de particulier, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Et quand on pense qu'au début de l'Église primitive, c'était tous les jours que l'on prenait le repas du Seigneur. Puis après, on est arrivé, à cause de certaines circonstances, à le faire seulement le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, une fois par semaine. Puis après, bien, on a trouvé que c'était déjà trop. Et puis, On a dit tous les 15 jours, puis après, tous les mois, puis après, tous les 3 mois, puis peut-être une fois par année. Je ne sais pas quels sont vos pensées, mais pour moi, dans la Sainte Seine, il y a un engagement et qui est renouvelé au fond chaque fois que nous participons à ce repas, où nous disons, Seigneur, je me souviens de toi, je veux me rappeler de ta mort, de tes souffrances, et dans la semaine qui vient, j'accepte de participer à tes souffrances. Là où tu as souffert, j'accepte de souffrir. Là où tu es mort, s'il le faut, j'accepte de mourir. C'est ça la fidélité. Et dimanche après dimanche, on est replacé devant le Seigneur et on lui témoigne. Seigneur Jésus, j'accepte de vivre pour toi. C'est un engagement. Alors, nous aimons à renouveler cet engagement. Et nous le faisons avec une grande joie. Quand les disciples, après avoir adoré le Seigneur ressuscité, et qu'ils l'ont vu s'en aller au ciel, quand ils sont retournés à Jérusalem, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, ce que j'ai demandé au Seigneur, vous allez partir, mais vous ne devez pas partir dans la tristesse. Vous devez partir dans la foi. De ce que vous avez pu recevoir, de ce que vous avez pu réaliser dans cette fin de semaine, vous repartez dans la joie. Et vous savez que là où vous vous trouverez, vous pouvez encore réaliser ces choses. Ce n'est pas la présence d'une personne qui compte, c'est la présence de la personne. C'est la présence de Jésus. Parce qu'on a une relation personnelle avec quelqu'un, c'est cela notre salut. Le salut, ce n'est pas une doctrine. Le salut, c'est quelqu'un qui ne vit pas à côté de nous, mais qui vit en nous. Et c'est ce que nous allons réaliser en mangeant le pain. Nous confessons que nous avons un Christ intérieur. En buvant à la coupe, nous reconnaissons que la vie du Seigneur nous anime maintenant. Il l'a donné pour nous et elle est en nous. Le Christ intérieur, en attendant ce moment de la gloire où nous pourrons l'exprimer, non plus avec nos pauvres mots humains, mais dans le langage du ciel, notre louange et notre reconnaissance. Et puisque vous avez parlé des couronnes, si le Seigneur nous a donné des fidèles et s'il nous donne une couronne, ce n'est pas parce que nous voulons la garder sur notre tête, mais c'est pour que nous puissions la jeter à tes pieds dans l'adoration. Que Dieu nous fasse entrer dans cette adoration. Voyez-vous, je suis toujours bouleversé en voyant la fin de Jacob. Ce Jacob qui était un escroc, ce Jacob qui a trompé, ce Jacob qui a fait toutes sortes de combines, de toutes sortes de plans avec Dieu, qui mettait aussi Dieu à l'épreuve, eh bien Dieu l'a tellement aimé. Et devant le Pharaon, quand Joseph l'a présenté et qu'il a parlé de ses pères, il dit au Pharaon qu'il n'a pas atteint les années de la vie de ses pères. Il parle d'Isaac et d'Abraham, ses pères, et il dit, qui ont marché devant lui. Et puis, quant à lui, eh bien, il sent toute sa faiblesse. et il la reconnaît. Mais à la fin de sa vie, quand il réunit ses enfants autour de son lit, il est dit que Jacob adora appuyé sur son bâton. Et dans ses bénédictions, il s'arrête à un moment donné, chapitre 49 de la Genèse, et il s'écrit, j'ai attendu ton salut. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai attendu ton Jésus. C'est le moment. Jacob vivait dans l'attente de celui qui devait venir. Nous, nous vivons en pensant à celui qui est venu. Et nous avons les signes de sa venue sur la terre une première fois, mais en participant à ces signes, nous annonçons la mort du Seigneur, cette mort qui est évoquée là sur la croix, jusqu'à qu'il vienne. Alors vous voyez, nous sommes dans ce courant, nous attendons le Seigneur Jésus, et c'est pour nous une bienheureuse espérance. J'étais si pris le mois passé en Suisse, en entendant une jeune femme me dire, bien vous savez, moi le retour du Seigneur, ça m'a jamais beaucoup réjoui. Pourquoi? Pourquoi ça ne nous réjouit pas? Vous me dites, mais on pense à tous ceux que nous voudrions être sauvés, mais on a chanté un cantique. Un cantique où l'on confesse au Seigneur notre certitude qu'il peut les sauver et qu'il n'y a pas besoin de longs moments, de semaines, de mois, d'années. En un instant, regardez Paul sur le chemin de Damas, il est terrassé. Il faut si peu de temps. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous entendez quelqu'un mort, ne le jugez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en lui. Et nous serons très surpris quand nous serons dans la gloire d'y trouver des bien-aimés pour lesquels nous avons désespéré. Dieu est un Dieu de salut. Et il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour des pécheurs, des grands pécheurs. Dieu constate l'amour qu'il a eu envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies, pour des gens qui n'avaient pas de relation avec lui. Et bien maintenant, nous avons une relation avec lui, que cette relation soit vivante, et vous saurez que vous ne pourrez pas être effacé du livre de la vie. Amen.
Amen.
Maintenant, nous laissons l'Esprit vous diriger, soit pour une prière d'action de grâce, soit pour un témoignage, mais que tout soit fait parce que étant donné le temps et l'heure, nous ne prolongerons pas indéfiniment ces moments. Alors, vous avez quelque chose sur le cœur, soit une action grave, soit une lecture divine qui exprime votre sentiment, soit un cantique.
La chanson qu'on vient de chanter, c'est que le groupe a déjà on fait en sorte qu'il y avait une pause vraiment de partager une année dans le même chèque. L'important, c'est que ça m'a manqué beaucoup de plusieurs années. J'ai souvent déjà partagé ça dans le livre, c'est que le Seigneur lui dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, je suis sur la montagne, je donnais aux derniers, je disais à ce que vous m'adresse. Je sais ce que vous me dites. Quand on vit pas ensemble, on voit que c'est un enseignement d'une simplicité vraiment simple, mais à laquelle je dois vous dire que j'ai beau vous dire dans l'entendre que je n'avais pas la force nécessaire de mettre ces choses en place. Que je vais vous mettre tous mes efforts à l'épreuve. Je n'étais pas capable d'aimer comme ça. Le Seigneur, à la fin du passage, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas celle-ci? Et ça m'a fait, comment ça marche? Puis de ce temps-là, Seigneur, m'a beaucoup été sur ces choses, sur l'unité, et l'orgueil. Les choses qui fait qu'on résiste à Dieu, et que Dieu nous résiste. Et, quand je viens au regret de ma naine, et ça a toujours été une bénédiction. Et une des plus grandes bénédictions que mon père, je l'ai tenu à dire, c'est ma toute femme. Je l'ai rencontré il y a 3 ans, et lui, on s'est marié l'année passée, ça va faire un an, le 7 décembre, pour l'année. Et lorsqu'on s'est marié, on m'a dit, c'est beau. Le Seigneur a vraiment été bon, il nous a préparé des choses merveilleuses. On a déménagé pour une maison fantastique, ça a été un témoignage pour notre père. Le Seigneur a vraiment œuvré à travers nous, il a dû nous convaincre de notre mariage, ça a été vraiment que c'est difficile. Puis là, on s'est marié, puis je vais vous dire que c'est ça que j'ai fait à mon avis à ce moment-là. Sont mes vœux. J'avais tout ça pour démarquer. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de plus beau don que celui de soi. L'amour est un don. Cet amour est plein de bonté, de douceur et d'espérance. L'amour est un. L'amour, c'est l'art de faire jeûner. Cet amour que j'ai pour toi, mon avis, à l'aide de Dieu, ne guérira jamais. À cause de cela, moi, le corps, je veux te prendre toi, mon épouse, pour ma femme, l'épouse, tu es ma bien-aimée, je m'engage, je te promets devant Dieu, et les hommes que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité, dans la détresse, dans la santé, dans la maladie, oui, je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, je le déclare solennellement, et que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ nous garde à tout jamais. Amen. J'avais écrit ça pour les vœux de mon mariage avec ma douce femme, en et je sais pas si ça non plus c'est capable de faire. Ça commence à être deux mois de mais c'est vrai, je suis pas capable de le faire. C'est, en plus de ça, je vois que l'ennemi nous attaquait sévèrement, avec des parents proches qu'on aimait aussi. On a passé des moments merveilleux, mais en même temps, juste, l'ennemi vraiment, déjà on voit qu'il attaque fort, puis quand les enfants de juste venir. Puis, quand on s'est marié, on avait un prédicateur, un pasteur, qui est venu emmener notre tante, puis il a dit, il y a des régulations qui vont venir. D'ailleurs, Paul nous dit aussi que dans le mariage, il y a des régulations. Il dit, retournez-vous, regardez vers Dieu, allez pas vers un ou l'autre, allez vers votre Dieu, allez vers Christ, je vais partir de vous. Et mettez-vous à genoux, priez, et vous serez préservés. Dieu viendra combattre pour vous. Mais quand il rentre à Dieu pour une chose, ça, ça va tomber dans des oreilles de chaud quand ça tombe des oreilles en bas. Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris encore.
Je résiste. Ma femme me demande souvent dans mes épreuves, viens, allons, mettons-moi à genoux, prions. Puis je résiste. Je m'accroche après ma chaîne, je veux voir, je veux. Elle fait avec tant de facilité, Seigneur, j'ai tant de la mais je rends grâce à Dieu qu'elle est la persévérance, me tirer pour aller à genoux. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour sa persévérance. Et tantôt, quand notre père Gaston disait le passage, qui disait qu'il priait à Dieu,
je vais vous dire quelque chose à toutes les fois qu'elle a réussi à rentrer à Dieu. C'est un remède miraculeux. Le Seigneur a fait des miracles. Il a nettoyé nos cœurs, il nous a montré à aimer les gens, les pardonner, à pardonner un l'autre. Comment peut-on aller à Dieu et avoir un cœur rempli d'amertume, de haine, de toutes sortes de choses? Par toutes les fois qu'on a été à genoux devant notre Dieu, le Seigneur a agi. Et on voit que le Seigneur, sa parole, elle est une parole vraie.
Amen.
À toutes les fois que Monique a eu sa matière à genoux, le Seigneur a fait des miracles dans notre couple et pour les gens qu'on aime en cours de nous. Puis je remercie le Seigneur pour la femme qui est à mes côtés. Puis je vais le remercier aussi de m'enseigner ces choses que sans lui, sans Christ, nous ne pouvons rien.
Amen.
Mettons à genoux et demandons-lui, et il le fera pour nous. Il va condamner.
Amen.
Mon tour numéro 54, mon tour urbain.
Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. En d'autres versions, il les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le destin de livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses dans ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et en linge, dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Est-ce que vous voyez la scène? Elle est ici trop tard. Je l'espère. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu veux laver les pieds, il n'y a pas de droit le matin, il faut qu'il nous rouvre. Jésus lui a dit, ce que je fais, tu ne comprends pas. Maintenant, mais tu comprendras bientôt. Et c'était vrai, c'était dans la même. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Laissez-vous faire par le Seigneur. Comme je l'ai souvent répété, c'est la leçon de Marie. Qu'il me soit, c'est selon sa parole. Laissez-vous faire par le Seigneur. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore mes mains, ma tête. Voilà pour nous sommes, n'est-ce pas? Jésus lui dit, celui qui est béni n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur, mais non pas pur. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous pur. Après qu'il leur lavait les pieds et qu'il a pris des vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que vous avez fait? Vous m'appelez maître, Seigneur. Et vous dites, tiens, parce que je suis, vous voyez comme on est conduit dans le culte, ça a été dit déjà, cette parole. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, elle-même, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, mais la pauvre plus grande que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Thank you. et de le dire aux habitants de la première édition corinthienne, où nous voyons que Paul a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné, et que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et nous serons dans la simplicité où lui-même l'a dit, il prit du pain. Et puis, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris du pain. Et en le rompant, il a pu dire, ceci est mon corps. Ce corps qui allait être livré sur la croix. Et nous continuons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. C'est ceci, en mémoire de moi, toutes les fois que je vois. Donc si c'est aujourd'hui, c'est cette fois-ci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il. Donc, on se souvient du prix qu'il a payé, on retourne dans le passé, on revient à la croix, et puis, en même temps, on se tourne vers l'avenir, parce qu'on attend qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il y a l'avertissement, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement. Si vous ne faites que manger un morceau de pain et boire une gorgée de vin, quelque chose de mécanique, non, par-delà l'élément qui n'a rien ou qui se produit, il n'y a pas de magie, on ne transforme pas le pain, mais ce pain reste le pain, mais par-delà ces éléments, nous comprenons que le Seigneur a livré son corps pour nous, et que il a versé son sang. De sorte que nous ne devons pas que manger et boire, mais car celui qui mange et boit sont discernés. Donc il est question, par-delà les éléments, de discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, il est formé de quoi? De membres, hein. Comme le pain est formé de plusieurs grains. N'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas dire, moi je communique pour moi, je ne m'occupe pas des autres. Si c'est ainsi que vous voulez communiquer, eh bien, c'est bien du tout. Vous niez l'unité du corps du Christ. De sorte que ce n'est pas le table, c'est l'expression de la table du Seigneur qui est où? Dans le ciel. Et sur la terre, nous avons une table, et puis les éléments qu'on a, nous prenons le pain et le vin dans la simplicité. Où le Seigneur l'a fait. Et alors, que chacun donc s'écoute soi-même, et que si il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et vous savez, il y a une conséquence. Hein? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, peut-être spirituellement aussi, et de malade. Et même quand l'un fait grand nombre, son nom, donc, si nous jugions nous-mêmes, voilà ce jugement, Nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, que dans sa grâce, le Seigneur nous accorde en cette fin de semaine, ou ce début d'une nouvelle semaine, que nous puissions communier avec le Seigneur. Et voyez-vous, je l'ai dit, souvent peut-être ici même, pour moi, la Sainte-Seine, j'ai commencé à prendre à l'âge de 14 ans après ma conversion, et après avoir été fondé par les frères dominicains pour voir si c'était réel, mais ça m'a gardé. Au travers des années, parce que chaque dimanche, j'avais compris que je pouvais répondre aux désirs du Seigneur. Alors il n'était pas question de vivre dans le péché. Je pouvais pécher, mais je m'en humiliais. Je pouvais, si je ne vivais pas dans les traces du Seigneur, mais ce n'était pas une raison pour moi, si j'avais le manquement, de dire, je m'en réponds plus ce matin. Parce que je sais que le Seigneur pouvait me purifier. Alors, il n'y a pas d'excuse. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous confessons nos péchés. Il y a une réconciliation peut-être aussi avec un frère, avec une sœur. Souvent, nous nous servons. Mais nous ne privons pas le Seigneur de la prison de ceux qui l'arrachent. Alors, vous savez, si vous appartenez au Seigneur, si vous lui avez donné votre vie, vous invitez à répondre à son désir. Dieu notre Père, un jour, nous serons là, dans le ciel de gloire. Et nous verrons la vie. Nous n'aurons plus besoin de tes signes. Nous les avons vus nous-mêmes. L'agneau qui nous est fait de nous, qui était préconnu des abrasions à qui nous nous, pour être manifesté aux gens propres. Et nous nous réjouissons de ce moment où tout le monde avait été racheté, loin de toute division, nous pourrons le rencontrer et l'adorer. Il n'y aura plus de jalousie, plus de méfiance, où nous ne connaîtrons que comme ça. Alors en attendant, nous désirons nous éduquer déjà sur la tête par le repas et discernant dans le sein, le corps tout entier nous dit en ce moment que nous sommes en communion avec tous les croyants, au pied de nous, tous ceux de notre corps pour les nous les embrassons dans nos cœurs et nous communions dans cette église une en bien fort et énergique. Et nous prenons des comptes en complétant que notre Seigneur ne nous est plus extérieur, mais un Seigneur intérieur, qui vit en nous aussi réellement que ce vin de terre. Nous reconnaissons que nous vivons de la vie. Ce n'est que nous qui vivons de Christ qui vit en nous. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi. Oui, nous pouvons vraiment nous mettre à jour devant toi et savoir que dans la prière, nous pouvons recevoir tous les exaucements dont nous avons besoin pour ta seule gloire en Jésus-Christ, en attendant de lui. Amen. Amen.